France Inter, franceinter.com.
Le sang est animé d'un mouvement circulaire. Il passe par les poumons et le cœur, et de là est lancé dans tout le corps. William Harvey. Mille ans d'histoire. Le sang est animé d'un mouvement circulaire, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais au début du XVIIe siècle, cette découverte de l'anglais William Harvey a bouleversé l'histoire de la science. Car si depuis toujours on savait que le sang était la source de la vie, pendant des siècles, on a ignoré d'où il venait, de quoi il était fait, comment il circulait dans le corps et même à quoi il servait. L'intelligence, écrivait le grec Empédocle il y a 2500 ans, se nourrit dans le sang, c'est de lui que vient la pensée. Et il a fallu des siècles pour que l'on comprenne que le cœur n'était pas le siège de l'intelligence, mais un muscle qui permettait au sang de circuler dans tout le corps par l'aorte, les capillaires, la veine cave, l'artère et les veines pulmonaires. Un mouvement circulaire dont la découverte par William Harvey a permis la naissance de la cardiologie et des opérations du cœur qui étaient impensables il y a encore 50 ans.
On clampe les câbles, Léon. Les câbles sont clampés.
On va clamper l'aorte.
L'aorte est clampée en avant, cardioplégie, s'il te plaît.
L'aorte est clampée. Cardioplégie en route.
Bistouri.
On récupère bien fort, Léon. Une gamine qui a une malformation cardiaque congénitale, qui est très fréquente, qui a une communication entre les deux oreillettes. Maintenant, on ouvre les cavités cardiaques, on va découvrir et traiter la malformation. Voilà, l'intervention est quasiment finie, pour ce qui est dans son temps intracardiaque. Maintenant, il faut refermer, et progressivement faire repartir le cœur du malade. Voilà, le cœur est défibrillé, il reprend ses contractions. Vous voyez les contractions, là ? C'est reparti.
François Boustany, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue et auteur de l'histoire d'une très grande découverte sans laquelle l'opération que l'on vient d'entendre aurait été impossible, la circulation du sang. Alors, tous les écoliers ou les collégiens l'apprennent aujourd'hui, mais elle est restée un mystère pendant des siècles. Depuis l'Antiquité, on savait intuitivement que le sang, c'est la vie, mais on ignorait comment il circulait et même à quoi il servait. Vous le rappelez, dans l'Antiquité, notamment en Égypte, on imaginait que c'était le siège de l'intelligence ou des sentiments,
oui,
le cœur.
Les Égyptiens, ils ont situé l'âme au niveau du cœur. Il était censé garder en mémoire tous nos bienfaits et gestes, et c'était le centre des sentiments. Et même, il y a eu la fameuse pesée du cœur après la mort, qui est l'équivalent de notre jugement dernier, et c'était devant le tribunal d'Osiris. Mmh. Et c'est des notions qui ont traîné jusqu'à l'Antiquité grecque.
Le siège de l'âme aussi, hein, pratiquement toutes les religions. Alors il y a quand même un certain nombre de Grecs qui comprennent que le cœur, par exemple, ce n'est pas le siège des sentiments, c'est un muscle. Hippocrate déjà le pressentait.
Tout à fait. Hippocrate a bien décrit le cœur comme un muscle. Et William Harvey, au XVIIe siècle, va lui rendre hommage comme étant le premier à avoir décrit le cœur en tant que muscle.
Alors on découvre assez vite l'existence des artères, des veines, mais on ne sait pas très bien comment tout ça fonctionne. Alors on le fait comment ? On le fait en disséquant des animaux, mais alors comme ce sont des animaux égorgés par exemple, on croyait que les artères qui étaient vides au moment où on les voyait dans le corps des animaux disséqués, que les artères transportaient de l'air.
Oui, c'est les premiers à avoir séparé la médecine de la magie, ce sont les philosophes naturalistes, donc le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et un de ces philosophes naturalistes, Alcmaïon de Crotone, élève de Pythagore, va disséquer les animaux. Et là, il distingue deux tuyaux différents un qui sera l'artère et l'autre la veine. Et le siècle suivant, le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est dominé par la figure d'Hippocrate, qui est à l'origine du passage de la tradition orale à la tradition écrite en médecine. Donc il va rédiger ce qu'on appelle le corpus hippocratique. Et pour ces médecins hippocratiques, en disséquant les animaux, ils trouvent le sang accumulé au niveau du foie, de la rate et des veines. Et ils trouvaient les artères vides, ne contenant que de l'air. Donc ils en ont conclu que le sang circule dans les veines et que les artères servaient à faire circuler le pneuma ou l'air.
Alors comme les artères étaient vides, donc c'est de l'air qui passe, enfin c'est ce qu'ils croyaient. Il y a autre chose, c'est que vous l'avez cité à l'instant, François Boustany, il parle du foie, parce que comme le foie était plein de sang, ils se sont imaginés, et on s'est imaginé pendant des siècles et des siècles, que c'est du foie que venait le sang. Que c'est le foie qui fabriquait le sang.
Ils ont situé le foie au centre de la circulation sanguine, ils ont dénié tout rôle au cœur, et en plus, le foie, pour eux, ils avaient un rôle de la fabrication du sang, alors qu'en réalité, le sang est fabriqué au niveau de la moelle osseuse.
C'est peut-être la raison pour laquelle, dans la mythologie grecque, Prométhée, quand Prométhée est enchaîné sur la montagne, eh bien, les aigles lui mangent le foie et pas le cœur. Hein. C'est parce qu'on a cru que c'était de là que venait le sang, donc la vie. En tout cas, pendant des siècles, eh bien, on a cru dans ce système sanguin. On en connaissait, encore une fois, les artères et les veines. Tous les anatomistes, les médecins le savaient, comme Léonard de Vinci au XVIe siècle, quand il peignait le corps humain.
Que fais-tu là, Leonardo ?
J'étudie. J'essaie de comprendre le système sanguin de l'être humain, monseigneur. Rendez-vous compte. Le nombre de vaisseaux, d'artères, de vénules, de veines, où circule le sang là-dedans. Tout ça pour faire battre un cœur exigeant, mais qui ne demande plus rien à présent.
Qu'as-tu appris sur le système sanguin ?
À mon avis, il y a dans le corps des milliers de lieux de vaisseaux sanguins. Des milliers de lieux, des dizaines de milliers de lieux. Et tout ça pour faire battre ce cœur. Avez-vous déjà vu un cœur, monseigneur ?
Non.
Voilà.
Le cœur humain, c'est ça. Ce n'est que ça.
Oui.
Et l'on entend une musique de la Renaissance quand on ignorait encore le fonctionnement, la circulation du sang. Tout ce que l'on savait, en fait, François Boustany, ça datait d'un homme qui a un rôle considérable dans notre histoire, dans votre histoire, dans l'histoire de la circulation sanguine, c'est Galien au IIe siècle. C'est un médecin grec.
C'est un médecin grec qui venait de Pergame en Asie mineure, mais sa carrière va se dérouler surtout à Rome. Et Galien, il était médecin de l'école des gladiateurs déjà à Pergame, avant de la quitter pour Rome. Et c'est en soignant les plaies artérielles des gladiateurs qu'il constate la présence du sang dans les artères. Donc, il va corriger cette erreur qui traînait depuis l'Antiquité, comme quoi les artères contenaient l'air et le pneuma, et il va confirmer la présence du sang dans les artères. Mais Galien, c'était un grand logicien, était formé dans les écoles de logique de l'époque. Et comme pour lui, le sang est fabriqué au niveau du foie, et comme il dit que le sang se trouve au niveau des artères, il lui fallait un passage du côté droit au côté gauche. Faute de l'imaginer par les poumons, qui est la circulation pulmonaire, il va l'inventer de toutes pièces au niveau du septum interventriculaire. C'est une membrane qui sépare les deux ventricules à l'intérieur du cœur. Il va inventer des trous au niveau de cette membrane. C'est une erreur qui va traîner jusqu'au XVIe siècle, alors que personne n'a jamais vu ces trous.
Il croit également que le cœur n'est qu'une chaudière. Il sous-estime, vous venez de le dire, le rôle des poumons dans l'oxygénation du sang. Et puis, il croit aussi, ça c'est une chose extraordinaire en vous lisant, je l'ai apprise, François Boustany, c'est que le sang, certes, il circule dans les veines, dans les artères, mais il va jusqu'aux extrémités du corps et là, il disparaît.
Oui, c'est tout à fait. Il avait pour lui deux systèmes. Un système d'irrigation agraire, on va dire, qui partait du foie par les veines, qui amenait le sang vers la périphérie et qui amenait les produits nutritifs aux organes. Et à côté de ça, il y avait un autre système qui ressemble aux thermes romaines, qui étaient basées au niveau du cœur, où il y avait une genre de chaudière qui fabriquait la chaleur innée, et qui était distribuée par les artères aussi au niveau des organes, pour réchauffer l'organisme. Et donc, pour lui, il y avait dans les artères et dans les veines, le sang circulait vers la périphérie. Il n'y avait à aucun moment l'idée d'une circulation, c'est-à-dire un retour du sang des organes vers le cœur.
Alors ça, on l'a cru pendant des siècles. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, en Occident, on ne s'intéresse plus tellement au sang, on garde les idées de Galien et d'Hippocrate, du moins en Occident, parce que dans le monde arabo-musulman, en revanche, on s'y intéresse beaucoup, et les seuls progrès réalisés dans ce domaine sont réalisés d'ailleurs par Ibn al-Nafis, qui est au Caire, et qui découvre déjà la petite circulation sanguine. Le rôle du monde arabo-musulman est considérable dans l'histoire aussi de la découverte de la circulation du sang, François Boustany.
C'est ça, c'est-à-dire entre la période grecque et la période latine, il y a eu les Arabes. Les Arabes ont récupéré leur science des Grecs, la rationalité des Grecs, au 8e siècle, grâce au calife abbasside. Il y a une médecine qui va se développer, qu'on appelle la médecine arabo-musulmane. Et en fait, ce n'était pas la médecine chamanique qui existait du temps du prophète, mais c'était une médecine rationaliste qui prenait ses racines dans l'œuvre de trois auteurs grecs, Galien, Hippocrate et Dioscoride pour la Matera Medica. Et cette médecine qu'on appelait arabo-musulmane, elle n'était pas exclusivement arabe, parce qu'il y avait des médecins perses et des médecins andalous, et n'était pas non plus exclusivement musulmane. Il y avait beaucoup de médecins juifs et de médecins chrétiens. Donc le terme arabo-musulman était dû au fait que c'est une médecine qui s'est développée dans l'espace géographique sous juridiction arabo-musulmane.
En Andalousie, par exemple, aussi
Du Perse, de Samarcande jusqu'à Saragosse. On peut dire que tout cet espace géographique était... c'est une médecine qui s'est développée dans tout cet espace géographique. Et là, donc, il y a eu deux grands médecins qui nous intéressent. Il y a eu Avicenne, qui, lui, ne fait que répéter Galien. Il fait le canon dont la valeur, c'est d'introduire la logique en médecine, dans le raisonnement médical. Mais c'est un autre médecin arabe qui va corriger la fameuse erreur de Galien sur les trous au niveau du septum interventriculaire. C'est Ibn Nafis, qui était un médecin du XIIIe siècle, né à Damas, et sa carrière va se dérouler au Caire. Mais sa découverte va tomber dans l'oubli, puisque le monde arabo-musulman à l'époque commençait son déclin, et sa découverte est restée confidentielle. Et en fait, elle n'est pas passée à l'Occident.
Et pendant ce temps-là, en Occident, on ne découvre rien d'autre sur la circulation sanguine. On reste fidèle à Hippocrate et Galien et au seul remède que l'on connaissait pour guérir les maladies.
Nous allons le porter sur son lit, doucement.
Il survivra ?
Personne ne peut le savoir. Les plaies sont très profondes. De toute façon, la première des choses est d'extraire les humeurs malignes. Et pour cela, je vais pratiquer une saignée.
Une saignée encore?
Je vous interdis de pratiquer la moindre saignée. Il ne vivra que s'il a toutes ses forces.
Votre grâce, voyons, vous allez contre tous les principes de la médecine moderne.
C'est très possible, mais quand un homme a perdu des pintes de sang, lui laisse le reste.
Selon Hippocrate, il...
Je me moque d'Hippocrate. Vous êtes tous des ânes et des ânes prétentieux. Sortez! Il ne s'agit pas de trouver le coupable. Il s'agit de sauver la victime.
Et là, on est à la veille de grandes découvertes à nouveau dans le domaine du sang en Occident. Comment est-ce que cette médecine arabe, et notamment dans ce domaine-là, François Boustany, est passée du monde arabo-musulman pour revenir en Occident?
C'est-à-dire au tournant du 11e, 12e siècle, l'Occident chrétien commence son réveil. Après cette nuit qui a duré depuis les invasions barbares, tout le long du Moyen-Âge. Et là, il leur faut une science, et cette science existe, elle est en face, c'est la science gréco-arabe. Et la pénétration de la science gréco-arabe dans l'Occident médiéval va se faire par deux voies, par l'Italie du Sud et par l'Espagne. En Italie du Sud, c'était surtout grâce aux Normands qui vont découvrir, en récupérant la Sicile, cette civilisation arabe. Et on fait venir un personnage qui s'appelle Constantin l'Africain, qui était originaire de Kairouan à côté de Tunis. Et Constantin l'Africain arrive, s'installe à Monte Cassino avec un corpus de livres de médecine arabe à l'abbaye. Et pendant 10 ans, il va traduire ces livres qui vont circuler rapidement. Ils étaient enseignés 25 ans plus tard déjà à Chartres. Et l'autre voie de transmission qui est beaucoup plus importante, c'est la voie espagnole. C'est au moment de la récupération de Tolède, quand Alphonse VI récupère Tolède en 1085. les Espagnols découvrent des milliers de manuscrits arabes dans les bibliothèques de la ville. Ils les laissent de côté et c'est un évêque de la ville qui va lancer un mouvement de traduction de ces livres en latin. Alors les traductions se faisaient grâce aux juifs et aux mots arabes de l'arabe au castillan, et puis il y avait des érudits latins qui traduisaient du castillan au latin. Et le plus célèbre parmi ces traducteurs, c'est Gérard de Crémone. Grâce à lui, on va redécouvrir Avicenne et Erasès.
Et puis on va découvrir ça, puis on va l'étudier dans des universités avec des chaires de médecine très importantes. C'est Montpellier en France, la première grande faculté de médecine. Ce sera Bologne, Padoue également en Italie. Surtout Padoue d'ailleurs, parce que c'est là que va travailler un anatomiste pratiquant des dissections qui s'appelle André Vézal et qui va découvrir encore un peu plus tout ce système sanguin. Il faut rappeler une chose, vous le faites d'ailleurs François Boustany, c'est que au fond, la découverte du corps, du mécanisme du corps humain en général et du système sanguin en particulier, s'est heurtée à un problème qui est celui de la dissection qui était sinon interdite par l'Église, du moins qui était extrêmement rare. C'était une espèce de tabou, la dissection.
C'est-à-dire, déjà, chez les Grecs, la dissection sur les cadavres humains était interdite. Il y a eu uniquement une petite parenthèse de 50 ans, au cours de la première moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie, sous les Ptolémées, où ils ont autorisé pour la première fois la dissection sur cadavres humains. Et là, il y a un personnage qui va se distinguer, c'est Hérophile, qui est le premier à disséquer des cadavres humains. Après, cette parenthèse va se refermer sous l'influence des religieux, et le grand Galien, lui, il va se contenter de la dissection des porcs et des singes dont l'anatomie ressemblait le plus à l'anatomie humaine. Donc il n'a pas disséqué des hommes. Et à la période arabe, même si dans le Coran il n'y a pas d'interdit pour la dissection, c'était mal vu, c'était un tabou. Et donc le premier qui va disséquer en Occident, c'est Mondino de Luizi à l'université de Bologne en 1316. Et il va disséquer le cadavre de deux femmes. C'était souvent des prostituées.
Et puis il y aura Vézal aussi, à vous en parler longuement. C'est d'ailleurs toute une cérémonie quasiment religieuse. Hein. Il y a le magistère qui... Alors ça se fait en public, il y a le magistère qui commente ce que l'on voit, le prospecteur qui découpe le corps, qui est en fait à l'époque un barbier, parce que c'était seul qui faisait de la chirurgie. Il y avait l'ostenseur qui montre. Et puis alors, ça se fait sur des cadavres, généralement, de condamnés. Vous dites même qu'on a soupçonné Vézal de s'entendre avec le juge qui prononçait les condamnations à Padoue pour ce qui concerne la date des dissections.
Oui, c'était le juge Marc-Antonio Contarini qui réglait les exécutions des condamnés à mort en fonction des besoins de Vézal en cadavre.
Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas Tull.
Constatez la splendeur mécanique de cette machine de Dieu, de cette création plus parfaite que les plus parfaites créations de nos artistes.
Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras. À la suite de quoi je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort ces tunnels que son sang impie a parcouru. Nous savons aujourd'hui que le sang circule partout dans notre corps. Constatez et profitez de ce savoir. Il ne faut jamais se perdre en dehors de ces constats, de cette expérience et les preuves qu'ils apportent. Mais revenons à l'enseignement que nous pouvons tirer de cet homme, car c'est lui offrir la grâce d'un rachat que d'utiliser sa dépouille à la noble fin de savoir.
Et c'était un extrait du film Rembrandt quand le peintre assistait à la fameuse leçon d'anatomie qu'il a peinte en 1632. Alors à cette époque, on l'a entendu, on venait à peine de découvrir la grande circulation sanguine. Il y a deux circulations sanguines, celle qui va du cœur au poumon et qui en revient. Ça, c'est la petite circulation. Vous avez rappelé le rôle de Ibn al-Nafis dans cette découverte. Il y a également en Occident Michel Servet qui a découvert cette petite circulation.
La première fois où la petite circulation sanguine sera révélé en Occident, ce sera dans un livre de théologie par un Espagnol qui s'appelle Michel Servet. Michel Servet, c'était il faisait des études d'anatomie à Paris, mais c'était en fait la théologie qui l'intéressait. Et c'était un illuminé, un genre de Don Quichotte qui voulait se battre contre les moulins avant. Et au moment où Luther et Calvin voulaient réformer l'Église, lui, il voulait carrément réformer le christianisme. Donc il sort un livre qui s'appelle « Christianisme restitutio », où pour les besoins de sa démonstration théologique, pour expliquer comment l'Esprit Saint s'introduit dans la matière humaine, il décrit la petite circulation sanguine sur trois pages. Et c'est comme ça que ce livre est rentré dans l'histoire de la médecine. Alors, ce livre va causer la perte de son auteur. Il cherche à fuir, il réussit à réunir contre lui l'Inquisition catholique et les calvinistes. Il fuit l'Inquisition en France, mais il ne trouve pas un meilleur moyen que d'aller se présenter à la prêche de Calvin. Mmh. Et il est reconnu à Genève. Il est reconnu, arrêté, jugé et exécuté.
Et brûlé vif, oui.
Voilà, brûlé vif le lendemain de sa condamnation à Champelle, à côté de Genève. Et c'est resté un cas de conscience dans le calvinisme. Déjà, des esprits libres de l'époque se sont levés dans Sébastien Castellion, qui a dit « Brûler un homme pour une idée, ce n'est pas défendre une doctrine, mais c'est commettre un assassinat. »
Alors, il découvre donc la petite circulation sanguine, vous le rappelez, celle qui va encore une fois du cœur au poumon, qui oxygène le sang dans les poumons, etc. Mais la grande circulation sanguine, ça, c'est, qui complète l'ensemble, qui permet de dire que le sang reste dans le corps, qu'il tourne et non pas qu'il s'évapore, comme on le disait jusque-là, c'est Harvey. Alors, c'est un Anglais, mais un Anglais qui découvre cette grande circulation sanguine à Padoue, hein, sur l'observation des animaux. Alors là, pratiquement tout ce qu'on sait de la circulation sanguine aujourd'hui, on le lui doit, François Boustany.
Voilà, il va publier un livre en 1628, un petit livre où il décrit toutes les modalités de la circulation du sang dans l'organisme. Et c'est vraiment le produit de son époque, de la pensée scientifique de son époque. Il part d'observations sur des animaux de mammifères inférieurs, dont le cœur est transparent et qui bat plus lentement, donc plus facile à observer. À partir de là, il émet des hypothèses et il vient les vérifier par des expériences de ligature. Donc c'est un modèle du cheminement intellectuel scientifique.
Alors le cœur fonctionne comme une pompe, hein, c'est pas autre chose qu'une pompe. Le sang circule en circuit fermé, il passe par des vaisseaux qu'on ne pouvait pas voir, c'est des tout petits vaisseaux qui sont des capillaires. C'est pour ça que c'est très intellectuel la construction de Harvey, mais enfin, pratiquement il a tout découvert, il achève d'avoir tout découvert. Il n'y a qu'une chose qui garde, c'est le fait que le foie est à l'origine du sang. C'est un peu plus tard qu'on s'apercevra que ça vient de la moelle osseuse. Cela dit, il provoque des réactions très vives. C'est un peu comme Galilée à l'époque, on est scandalisé. Pourquoi ? Parce que, vous le dites, François Boustany, au fond, il dit que le corps, c'est une simple mécanique, une espèce de tuyauterie. Il n'y a plus d'âme là-dedans.
Oui, tout à fait, parce qu'il a démontré que le système cardiovasculaire, c'est en fait une pompe et des tuyaux, et ce n'est pas des forces mystiques ou une âme qui pousse le sang dans les artères et les veines.
Alors, on sait tout à peu près avec lui, mais il faudra encore près de 200 ans pour en tirer les conséquences pratiques et pour traiter les maladies cardiovasculaires grâce aux médicaments et à de nouveaux instruments comme le stéthoscope.
Voudriez-vous nous rappeler le principe de cet examen pratiqué couramment depuis plus de 50 ans ?
Je crois que le plus simple, c'est que je vous prenne votre tension, monsieur Sarès. Alors, vous voyez, je place le brassard, je le serre autour de votre bras, et maintenant, à l'aide de cette poire en caoutchouc, j'insuffle de l'air à l'intérieur du brassard. J'arrête ainsi le flux sanguin. Maintenant, je dégonfle progressivement le brassard et avec un stéthoscope placé sur l'artère, je vais écouter à quel moment vont reprendre les battements interrompus par l'arrêt de la circulation. Le voici.
Et l'aiguille sur le manomètre de l'appareil indique, je crois, 13 au moment où j'ai senti la reprise des battements.
Il est excellent, il n'y a rien à dire. Tout est parfait.
Prenez garde à la saison des nids, car au printemps, une mauvaise circulation du sang occasionne des troubles et des malaises. Pour avoir une bonne circulation du sang, faites la cure classique de jouvence de l'abbé Souris. Aucun autre produit ne peut la remplacer.
Et ce sont deux archives des années 50, alors le stéthoscope, la jouvence de l'abbé Souris, tout ça vient très longtemps après la découverte de Harvey. On a mis beaucoup de temps entre le moment où on a découvert la circulation du sang et finalement son utilisation dans la médecine. On commence d'abord par le diagnostic, hein, ça a été assez long. Ça vous rappelle le rôle d'une école française très importante au début du 19e siècle qui a permis de classer les maladies cardiovasculaires, François Boustany.
C'est-à-dire, la découverte de Harvey était un peu en avance à son époque, parce que les contemporains de Harvey n'ont pas pu l'exploiter. Il leur manquait deux choses, la connaissance des maladies et l'examen clinique. La connaissance des maladies, surtout, va se définir à partir du XVIIIe siècle grâce à la méthode anatomoclinique qui consistait d'aller voir sur les cadavres les lésions des organes responsables des signes cliniques notés du vivant du malade. Et puis, l'examen clinique. L'examen clinique, ils avaient à leur disposition la prise du pouls, ils regardaient les urines et ils palpaient l'abdomen. Donc, le cœur et les poumons qui étaient dans cette cage thoracique, ils étaient inaccessibles complètement aux mains des médecins. Et c'est l'école napoléonienne, c'est-à-dire notamment Corvisart, qui était le médecin de Bonaparte, et qui va définir la palpation et la introduire la palpation et la percussion thoracique pour définir la présence d'eau au niveau du thorax, et puis surtout l'AENEC qui met en place l'auscultation.
Vous citez également Brousset qui réhabilite les purges et puis même l'extraction du sang, les saignées. Mais alors il utilise à ce moment-là des sangsues, il en fait venir des milliers, si bien qu'on disait Napoléon a décimé la France, Brousset l'a saigné à blanc. Alors en fait, avec le diagnostic, on sait on meurt, mais on meurt toujours. Il a fallu du temps aussi, là encore, pour faire progresser par la pharmacie les médicaments, et puis bien sûr la chirurgie, qui était un tabou, mais qui a cessé de l'être depuis peu de temps à ce moment-là, François Boustany.
C'est-à-dire, malgré 2500 ans d'évolution de la pensée médicale, malgré tout le savoir cumulé, on mourait quand même dans les années 50, 1950, comme au Moyen-Âge, comme l'Antiquité, dans l'Antiquité. On mourait seulement en connaissant le nom de sa maladie. Et c'est grâce, en fait, à la génération de nos maîtres, qui, jeunes internes dans les années 50, ils étaient complètement démunis. Et à la fin de leur carrière, dans les années 90, ils ont vu se mettre en place toute l'armada thérapeutique dont on dispose aujourd'hui. Il y a eu la chirurgie cardiaque avec une date importante, 1955, parce que c'est là qu'on a mis en place la circulation extracorporelle. Donc on pouvait arrêter le cœur et travailler dessus. Et là, la chirurgie cardiaque va prendre son essor. Une autre date importante, 1977, où on va commencer à faire les dilatations par les ballonnets des artères. Et puis toute la pharmacopée dont on dispose aujourd'hui, elle a été découverte à partir du milieu des années 60.
La transplantation cardiaque aussi en 67, on s'en souvient, avec le professeur Barnard qui greffait un cœur avec des problèmes aussi d'ailleurs que ça posait de rejet à l'époque. Et aujourd'hui, ce n'est plus un problème de rejet, mais de manque de donneurs. Tout ça étant possible grâce à cette fameuse découverte dont vous avez parlé, c'est-à-dire la découverte de la circulation sanguine avec Harvey. Pour en savoir plus, François Boustany, je recommande la lecture de votre livre « La circulation du sang entre Orient et Occident, l'histoire d'une découverte » publiée aux éditions Philippe Ray, un livre qui a obtenu le prix littéraire de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Les Borgia » ou « Le sang doré » d'Alain Deneau, ainsi qu'un extrait du film « Rembrandt » de Charles Maton, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Éric Morin et Rémi Quincet, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un roi de France méconnu et qui le serait resté sans Jeanne d'Arc, Charles VII.